et bienvenue à la conférence de présentation des résultats semestriels 2024 du groupe Chargeurs. Je donne la parole à Monsieur Olivier Bouquin, directeur général adjoint. C'est à vous, monsieur.
Bonjour à toutes et à tous. En effet, avec Michael Fribourg, président, directeur général, et Jérôme Engin, directeur financier du groupe Chargeurs, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette présentation des résultats du premier semestre 2024 de Chargeurs. Sans plus attendre, je passe la parole à Michael Fribourg.
Bonjour et bonne rentrée à chacun d'entre vous. On espère que vous avez passé un bel été. Été qui a été, comme vous l'avez peut-être observé, actif pour notre groupe et notre maison. Après un premier semestre marqué par une forte génération de cash et une accélération dans l'intégralité de nos métiers. Je commencerai par une petite synthèse introductive avant de décrire l'évolution, la situation et les objectifs clés que nous avons sur chacun de nos métiers. Mais effectivement, vous l'avez compris que ce début d'année a été particulièrement porteur pour nos métiers d'une part, et que nous avons dans ce contexte pu capter le bon gradient de valeur que nous souhaitions. Mais également, cette année 2024, elle est marquée, et je commencerai par ça, par un fait qui la domine de tout son long, puisque elle a été d'abord marquée par le succès de l'OPA menée par le groupe familial Fribourg et par ses partenaires sur Chargeurs. Cette OPA, je le rappelle, s'est achevée en avril dernier. Et ce serait une erreur de penser que c'est la simple continuation du chargeur par simplement un élargissement de l'emprise capitalistique. En effet, d'abord, je rappelle les résultats de l'offre, puisque le groupe familial Fribourg et ses partenaires contrôlent désormais 67,5% du capital, près de 69% des droits de vote. Et à l'occasion de cette offre, l'un des points majeurs, c'est que, outre évidemment le très significatif renforcement patrimonial que cela représente pour notre groupe familial, nous avons accueilli comme partenaire minoritaire à nos côtés des investisseurs qui pour certains étaient déjà présents et qui ont souhaité se renforcer dans Chargeurs, et d'autres qui n'étaient pas encore présents mais qui ont également été séduits par l'attractivité du groupe. Donc, d'un côté, à l'issue de l'offre, il y a un certain nombre d'institutionnels qui sont sortis du capital de Chargeurs comme société cotée, mais de l'autre côté, on a des institutionnels de premier rang, hein, je les rementionne, Groupama, BNP Paribas Développement, la MACSF, la CARAC, et puis la famille Aberdasso, qui se sont renforcés et ont accompagné l'opération et qui ont souhaité être actionnaires au sein de l'une des deux Columbus qui contrôle Chargeurs, qui, par construction, est dans un schéma beaucoup plus long terme, beaucoup moins liquide. Et ça, c'est un signal extrêmement fort de l'attractivité du groupe. Bon, en même temps, ni la famille Fribourg, ni ses partenaires ne sont venus pour beurrer les tartines. Donc, évidemment, on est extrêmement ambitieux par rapport aux actifs du groupe, dans un contexte où le flottant qui demeure est un flottant très significatif de 32%, ce qui exprime l'intérêt du marché pour le potentiel futur du groupe. Et je le précise aussi avec beaucoup d'investisseurs individuels. Et d'ailleurs, la répartition de la distribution montre que voilà, c'est une valeur de beaucoup de portefeuilles d'épargnants français qui souhaitaient accompagner sur le long terme les prochaines étapes du groupe. Et ces prochaines étapes, elles vont être structurées par un plan stratégique 2025-2030 qui est en cours de préparation, que nous présenterons au printemps prochain, et qui visera à mieux valoriser chacun de nos domaines d'activité, chacun de nos actifs. Et pour bien le faire, il est essentiel évidemment que le contexte opérationnel soit un contexte opérationnel bien important, et c'est tout à fait le cas à travers ce premier semestre 2024, comme certains d'entre vous ont déjà pu le constater. Un premier semestre qui, ce n'est pas pour nous une surprise, mais en tout cas, se caractérise par une accélération importante métier par métier, et puis aussi par une génération de cash extrêmement importante combinée à l'extériorisation de valeur sur nos actifs. On aura l'occasion d'y revenir, dont il résulte aussi, outre la dynamique opérationnelle, que le groupe a une situation de fonds propres à près de 300 millions d'euros. Tout ce contexte fait que, comme nous l'avions prévu, le groupe envisage une reprise du cycle de dividendes à compter de l'an prochain. Le rebond opérationnel, il a été caractérisé par une croissance du chiffre d'affaires de 11% en organique, une croissance de notre OPA de 34%. Le chiffre d'affaires du groupe atteint 374 millions d'euros. L'EBITDA progresse de 20%. Cette progression, elle est le fruit de fortes dynamiques sur un certain nombre de nos activités, ou de bonnes dynamiques ou de solides dynamiques selon les métiers. Notre métier de film de procédé pour l'industrie Novacel, on a aussi, à cette occasion de cette publication, on poursuivra l'exercice, un peu simplifier les éléments de présentation pour se focaliser sur les marques industrielles opérationnelles ou les marques qui sont le cœur d'activité du groupe. Donc c'est pour ça que vous voyez apparaître Novacel et pas simplement Chargeur Advanced Materials. Donc Novacel a connu au second trimestre une belle accélération de croissance de son chiffre d'affaires à deux chiffres, à plus de 12%, après une accélération aussi plus légère au premier trimestre. Bon, clairement, on voit que la reprise est là, progressivement, et évidemment, cela génère une forte accélération de l'EBITDA et une forte accélération du ROPA. En un semestre, ils ont quasiment fait la performance qu'ils avaient fait sur toute l'année dernière, qui était une année évidemment tout à fait défavorable, mais en tout cas, c'est un signal extrêmement puissant et extrêmement fort qui s'accompagne aussi d'une très forte génération de cash sur ce métier. On voit que dès que les volumes sont un peu plus dans la norme classique, très vite, on génère à la fois beaucoup de rentabilité et de cash. Notre branche textile chargeur PCC aussi fait un bon premier semestre, hein, 9% de croissance organique. Son ROPA s'accroît également, plus de 10% de marge d'EBITDA. Là aussi, c'est un élément de très belle réussite pour l'année et pour le semestre, avec un métier qui était dans un contexte qui n'était pas pour autant spécifiquement extrêmement dynamique, mais les gains de parts de marché et aussi la montée en gamme du métier fait que on a à un chiffre d'affaires donné une solide rentabilité et surtout une très forte marge brute. Et dans le même temps, on a Museum Studio. Museum Studio est un domaine d'activité qui faisait l'objet de beaucoup d'attention, beaucoup d'attentes pour savoir si enfin on allait avoir la rentabilité conforme à nos attentes. Le chiffre d'affaires est en hausse significative, hein, près de 30%, 27% et demi. L'EBITDA a suivi, l'Europa a suivi et dans le même temps, le carnet de commandes s'est fortement étendu puisqu'on a annoncé au cours du semestre le franchissement de 300 millions d'euros de carnet de commandes confirmés. C'est du signé et confirmé, hein, c'est pas de la prospection commerciale. Cela représente deux fois le chiffre d'affaires qui est attendu pour 2024. Là aussi, c'est un élément de très grand succès qui va se poursuivre et s'accélérer au second semestre. Donc on est, c'est aujourd'hui un métier contributeur à part entière dans l'ensemble des domaines d'activité de chargeurs, et surtout c'est un immense succès industriel, commercial et français, puisqu'on est très heureux d'avoir fait naître ce champion. La génération de cash du semestre est au rendez-vous, près de 40 millions de flux de trésorerie au niveau du groupe, plus de 54 millions d'euros de cash générés par les métiers opérationnels, j'y reviendrai. Les métiers ont tous bien contribué. Novacell, Chargeur PCC, Luxury Fibers, Museum Studio, enfin, ils ont fait leur devoir. Et puis, je le disais, une hausse significative des capitaux propres, une réduction significative aussi de l'endettement financier de plus de 32 millions, et tout en poursuivant nos investissements opérationnels et nos investissements dans des immobilisations. Donc voilà, c'est un semestre de très bonne facture, tout à fait en ligne avec nos stratégies et nos ambitions. Une fois dit ceci, je propose de passer à la revue des activités opérationnelles. Tout le monde nous connaît, donc je ne reviens pas sur la géographie des métiers du groupe. Je vais directement sur la slide 10 qui vous décrit la dynamique commerciale du semestre. Donc, je le disais, 11 millions, 11% de croissance sur le premier semestre. Un T2 qui s'est accéléré au sein de nos activités industrielles historiques, Novacell et CFT-PCC, et notamment Novacell, et au sein de nos activités soit plus récentes, soit plus orientées vers le luxe, comme Museum Studio, les fibres et Personal Goods, on a également là une croissance très bonne sur le second trimestre, donc je n'appelle pas de commentaires spécifiques. Bon, vous le voyez également sur cette slide, notre activité est fortement tirée par notre bonne dynamique aux États-Unis, hein, je rappelle que c'est notre premier marché. L'Europe n'a pas démérité, mais sa croissance est beaucoup plus faible. Si vous voulez, on y reviendra, mais bon. L'Europe est un pôle économique tellement rayonnant, qui attire tellement le monde entier et qui est tellement stable à tous égards, y compris politiquement, que c'est évidemment un Eldorado économique que personne ne peut ignorer. Mais blague à part, clairement, notre croissance, nous, elle est venue des États-Unis et de l'Asie. Et le petit pourcent de croissance qu'on a eu sur l'Europe, quand on va un peu dans le détail, on voit quand même que l'Europe a bien soutenu, y compris Novacell. Alors ça, c'est un élément quand même très intéressant parce que il n'y a pas pourtant une dynamique économique très forte, mais on voyait qu'il y a un effet de reprise malgré la stabilisation des taux en Europe a eu un impact clairement favorable. En sens inverse, ça a été moins florissant pour CFT-PCC en Europe, mais très puissant pour eux aux États-Unis et en Asie. Bon, tout ça c'est très bien, mais à la fin de la foire, ce qui est important, c'est de savoir combien de cash on a généré. C'est ce qui nous intéresse. Au premier semestre, le groupe a généré, à travers ses activités opérationnelles, 54 millions d'euros de flux de trésorerie, ce qui est considérable. Comme vous le voyez, slide 11, Novacell a significativement contribué, mais aussi beaucoup de nos métiers ont contribué, hein. Notre métier fibre, Museum Studio a très bien contribué. Ça montre qu'il n'y a pas seulement de la génération de performance PNL, mais que bilanciellement, ça génère du cash, et ça, c'est très essentiel. PCC Fashion Technology aussi, et évidemment, tout ça a vocation à se poursuivre ce second semestre. Ces 54 millions, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est assez simple. Pour 11 millions, ils sont allés dans les frais financiers du semestre. Pour 6 millions et demi dans les investissements, Olivier y reviendra. Enfin, on est revenu sur des niveaux d'investissement qui sont tout à fait normatifs. Après aussi que l'an dernier, on ait poussé les investissements pour bien tirer parti de la reprise, et donc on a bien fait. Il y a les coûts centraux pour 3 millions, et puis surtout la réduction de l'endettement pour plus de 30 millions. Donc voilà, c'est la bonne dynamique, c'est la dynamique vertueuse, et C'est évidemment extrêmement satisfaisant pour les actionnaires de contrôle que nous sommes, comme pour l'ensemble de nos parties prenantes. Quand on va dans les chiffres métier par métier, donc j'y reviens un peu. Donc je reviens d'abord sur Novacell. Novacell a fait 12,5% de croissance organique et 12% de croissance organique et de croissance publiée. 158 millions d'euros quasiment de chiffre d'affaires au premier semestre. Un EBITDA à 13,8 millions, un résultat opérationnel à 8 millions 6. Donc ce sont d'excellentes tendances. Le second trimestre donc a été un très bon trimestre. Je le disais, l'Europe a plutôt été bonne et porteuse. Du côté de l'Asie, si la Chine est assez faible, par contre les autres zones ont été dynamiques. La marge opérationnelle double, enfin, je ne reviens pas plus en détail puisque c'est tellement évident, dès qu'il y a une absorption des frais fixes, un peu plus de chiffre d'affaires, il y a évidemment beaucoup plus de rentabilité. Dans un contexte où, et on les en félicite, la nouvelle équipe qui a été constituée en début d'année autour du nouveau directeur général Philippe Denoy a extrêmement bien travaillé pour capter pleinement les bénéfices de cette reprise. On a un contexte sectoriel dans les débouchés de Novacell qui est plutôt satisfaisant et plutôt correct. Et nous pensons qu'on est encore qu'au début avec un scénario que nous faisons d'une accélération qui a des raisons d'être assez forte en fin d'année et en début d'année prochaine, tout simplement parce que l'ensemble des filières industrielles qu'ils servent devraient fortement tirer parti du début de baisse des taux après déjà des effets liés, et des effets que je pense moi très significatifs, liés à deux facteurs, la stabilisation des taux d'un côté et de l'autre côté, la normalisation relative, je mets les guillemets qui conviennent, mais des prix de l'énergie. Et donc ça, c'est un facteur qui est assez solide. Et nous-mêmes, comme industriels, on est en phase de couverture sur nos prix de l'énergie pour l'an prochain. On voit très bien que tout ça est beaucoup plus favorable. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des filières industrielles servies par Novacell, qui continue par ailleurs sa stratégie de premiumisation avec un accent très significatif qui est mis sur l'innovation et une équipe aussi renouvelée sur l'innovation notamment sur tout ce qui est innovation verte et plastique biosourcés. Sur notre métier chargeur PCC, une croissance publiée à peu près à un niveau de chiffre d'affaires stable en publié, mais qui reflète des dynamiques de change assez variées du fait dont il ressort qu'en fait en organique c'est plutôt une croissance au semestre à 9%, donc ça c'est très bien. Très jolie marge d'EBITDA à 11% du chiffre d'affaires, donc là on est très heureux de ce résultat. Il n'y a pas beaucoup d'activités industrielles qui peuvent se targuer d'être dans ce range de 11% de marge d'EBITDA et un résultat opérationnel des activités à près de 8 millions d'euros qui s'est aussi amélioré, et tout ça avec des vents contraires assez marqués sur l'Europe, mais une dynamique vraiment puissante sur les États-Unis et l'Asie hors Chine. Véritablement, là, on récolte les fruits d'investissements menés au cours des dernières années. C'est une très bonne configuration. Il faut quand même avoir en tête que le chiffre d'affaires du métier est réalisé maintenant à 60% en Asie. Alors, une partie, c'est du chiffre d'affaires vraiment asiatique, une autre partie, c'est du chiffre d'affaires, en fait, lié aux marques américaines qui se développent en Asie. La maîtrise des coûts a été aussi très, très forte, d'où l'amélioration du repas. Et puis, un événement très important de cette année, alors c'était pas totalement dans le semestre, on l'a annoncé dans le semestre, mais ça s'est finalisé en début d'été, c'est l'acquisition de Cylander en Suisse, qui est une très belle pépite de l'industrie textile suisse et qui est véritablement dans des niches très complémentaires de ce que nous avons de ce que nous avions jusqu'alors chez Chargeur PCC, avec des applications dans l'habillement très haut de gamme, notamment les tissus pour chemise et un certain nombre de produits comme les gouttras pour le golf, mais également des textiles très techniques pour l'industrie militaire et les applications militaires pour aussi le nautisme haut de gamme. Et donc là, on est vraiment dans une très belle opération de niche que nous avons pu mener. Et aujourd'hui, Sealander est en phase de fusion, en tout cas commerciale et marketing, puis de coordination industrielle avec un actif que nous avons dans l'est de la France qui s'appelle Sanfa, et donc le nouvel ensemble s'appelle désormais Sanfa Sealander, et on va mener un certain nombre de transformations sur ces actifs pour fortifier d'une part notre engagement dans les textiles à application militaire, mais aussi dans d'autres domaines comme la signalisation commerciale et aussi l'habillement très, très haut de gamme. Donc voilà, c'est vraiment une niche qui va aussi tirer parti du Made in Switzerland, qui est un atout puissant de cet actif qui a son siège à Luzelflou, dans les alpages bernois. Je passe maintenant à Museum Studio, qui est l'un des bébés chargeurs récents, bébé qui commence à prendre un peu de poids. Le chiffre d'affaires du semestre est à plus de 65 millions d'euros. Je rappelle que le chiffre d'affaires à l'année est attendu autour de 150 millions d'euros. Le résultat opérationnel, l'EBITDA est à 11%. Le résultat opérationnel à 9%, à 6 millions d'euros. Le résultat opérationnel de l'année est attendu autour de 12 millions d'euros. Et là aussi, nous tirons parti de notre très puissante dynamique américaine, nos puissantes dynamiques au Moyen-Orient. Enfin, ça marche très bien partout. Nous avons également mené avec succès et produit avec succès l'exposition Cézanne Renoir à Milan avec plus de 150 000 visiteurs en 3 mois, qui nous a été aussi solidement rentable. Le modèle de pilotage de la performance du métier tourne bien. L'équipe managériale, l'équipe managériale autour de Gianluca Tandy chez Chargeur PCC, est extrêmement puissante. On a là aussi chez Museum Studio une très solide équipe managériale autour de Delphine de Cancode, c'est un des ingrédients évidemment du succès. Et le succès, appelant le succès, bien évidemment, ça crée de l'attractivité, et c'est ce qui nous a permis d'annoncer il y a quelques jours la prise de contrôle d'une institution qui s'appelle le Grand Palais Immersif, qui était en fait une privatisation d'un actif public français créé par la Réunion des musées nationaux, la Caisse des dépôts et Vinci, lesquels restent actionnaires minoritaires à nos côtés, et ce qui nous permet de figurer dans la grande porte sur à la fois les institutions culturelles françaises et les technologies immersives, avec un point très important, c'est le développement de propriété intellectuelle propriétaire au sein du Grand Palais Immersif que nous allons commercialiser et qui sont d'ores et déjà, au moment où on se parle, commercialisés dans le monde entier sous la marque Grand Palais Immersif. Et évidemment, être propriétaire de la marque Grand Palais Immersif, c'est une puissance colossale. Il y a quelques jours, a ouvert à Shenzhen une exposition immersive. Dans quelques jours, on verra en Corée du Sud une autre exposition immersive dédiée à Mona Lisa et menée par le Grand Palais Immersif. Et tout ça va encore s'étendre à l'international. Et nous lancerons début novembre en France, également sur le site de Bastille, une grande exposition qui sera très intéressante à voir et que je vous inviterai à aller visiter. Notre branche fibre, donc voilà pour Museum Studio. Sur notre branche fibre, le chiffre d'affaires est en progression, la rentabilité n'est pas terrible. Alors elle est un peu pénalisée par les investissements qu'on continue de faire sur Nativa, hein, c'est un peu la stratégie, c'est un métier qui dans les activités traditionnelles jamais été très très rentable, mais la petite rentabilité qui est générée, elle est surtout allouée aux investissements opérationnels qu'on fait pour développer Nativa, qui là est la pépite à l'intérieur. Pépite qui commence quand même à grossir un peu parce que ça va faire cette année près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 35 et 40. Cette activité est rentable et dans le cadre du plan stratégique, on va essayer de voir comment encore accélérer sur ces activités tout en n'ayant un engagement moindre sur les activités les moins rentables. On avait déjà fait de l'arbitrage de chiffre d'affaires l'an dernier, vous vous en souvenez. Ça nous pénalisait d'ailleurs un peu dans notre image de chiffre d'affaires global. On continue de le faire. Là encore, notre priorité sur ce métier, c'est plutôt de générer du cash. On en génère, on est très content. L'impact en rentabilité est un peu moindre et la rentabilité qui est générée est utilisée pour développer Nativa. Et cela représente quelques millions par an. Mais donc il y aura sans doute un certain nombre d'évolutions autour de ce métier pour bien valoriser chacun des actifs. Enfin, du côté de nos marques d'accessoires haut de gamme, Swaine, Cambridge Satchel et Altès, on poursuit notre stratégie d'investissement. Alors l'essentiel de nos investissements passe en PNL, hein, puisqu'il y a un flagship et donc on a plutôt retenu l'option de passer tout ça en PNL. Donc ça passe que marginalement, en tout cas moindre, de façon moindre en CapEx. Donc ça représente un investissement de 3,7 millions sur le semestre. Et maintenant, on entre dans une phase où nous allons développer le réseau commercial. Donc maintenant que les bases d'images, de produits, d'offres de ces marques sont établies dans le sens que nous souhaitions, eh bien, on va pouvoir accélérer commercialement, ce qui ne représente pas des investissements importants, mais surtout qui va évidemment refaire passer du côté positif la rentabilité publiée sur ce métier qui aujourd'hui est un peu déformé par les investissements que nous y menons, mais c'est normal et c'est le cycle que nous avions prévu. Et dans ce contexte-là, on est très content des premiers résultats du flagship de Swaine à Londres, que j'invite chacun à voir, avec de très belles collaborations avec les grands studios de production cinématographique internationaux. Cambridge Satchel également. À travers ses collaborations comme Hello Kitty, Wicked, qui va être la grande sortie des studios américains de fin d'année 2024, et Emily in Paris, que tout le monde connaît, là aussi bénéficie bien de cette dynamique. Le grand enjeu aussi pour Cambridge Satchel, c'est l'extension du réseau commercial et du réseau de distribution, et on a été très prudent, on l'a fait à notre rythme parce qu'on veut pouvoir se développer dans les bonnes zones, notamment en Europe du Nord, en Asie, etc. On ne voulait pas se précipiter, on voulait bien poser les fondamentaux de chacune de ces marques, tandis qu'Altès accélère et plusieurs d'entre vous me faisaient remarquer qu'ils observaient une très forte visibilité dans les pharmacies, un peu dans toute la France, y compris sur les zones balnéaires. Mais c'est surtout aussi l'expansion internationale des produits, puisque d'une société qui était essentiellement franco-française, c'est en train de devenir une petite PME internationale qui exporte maintenant plus de 25% de son chiffre d'affaires, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Asie. Et là aussi, c'est un très joli succès. Sur ce pôle personal goods, on entre maintenant dans la phase de consolidation commerciale et donc on va pouvoir démultiplier nos réseaux de vente. Ce qui fait que sur le cycle du prochain plan stratégique, évidemment, sera un élément et une branche comme nos autres branches par le passé que nous avons construites ont eu ce chemin-là qui sera également bénéficiaire. Mais c'est la culture du groupe aussi d'investir dans des puissances actifs pour l'avenir et il faut anticiper les futures générations d'actifs. Je passe la parole sur la synthèse financière à Olivier Bucquin vous retrouverez pour la séance de questions.
Merci Michael. Alors un point de méthode tout d'abord pour commencer cette introduire cette revue financière. Donc en cohérence avec le succès de l'OPA qu'a rappelé Michael Fribourg, nous avons souhaité mieux refléter la valeur patrimoniale du groupe. Voilà pourquoi nous avons décidé, avec l'aide d'un cabinet expert indépendant, d'appliquer à nos actifs terrain et construction, aux usines et aux terrains qui les portent, à compter du 1er janvier 2024, le modèle de la réévaluation au prix de marché et non plus le modèle du coût historique. Et donc, afin de permettre une lecture comparable de nos exercices 2023 et 2024, nous présentons, dans les slides que vous avez sous les yeux, des comptes 2023 calculés comme si ce changement de méthode et la consolidation de Swen avaient eu lieu dès le 1er janvier 2023. Alors, précisément ce compte de résultat, en slide 26, Michael Fribourg l'a évoqué, le chiffre d'affaires est en forte hausse dans tous les métiers et dans tous les continents. Et c'est important également de le souligner, notre marge brute augmente très nettement, en particulier grâce à la reprise de Novacell, mais aussi à une nouvelle amélioration de la marge brute chez Chargeur PCC et chez Museum Studio. Les bits et le repas sont en forte hausse, en valeur absolue comme en taux de marge. Et là encore, Novacell, Chargeur PCC, Museum Studio sont les principaux contributeurs, avec à chaque fois des belles progressions, comme nous venons de le voir. En dessous du résultat opérationnel des activités du repas, les principaux éléments à signaler sont les suivants. D'abord, entre le repas et le résultat d'exploitation, les amortissements des goodwill s'élèvent à 1,5 million et le non-récurrent à 5,3 millions, qui se compose essentiellement de charges exceptionnelles liées à l'OPA, dans la part qui revient à chargeur, et liées à des coûts de restructuration. Les charges financières ont atteint un pic au cours du semestre, un pic qui est maintenant derrière nous et qui est lié à la hausse des taux, bien évidemment, et également à la superposition de financements anciens et de nouveaux financements qui ont été mis en place pour les remplacer dans le temps. Par ailleurs, le traitement comptable de l'hyperinflation argentine, où nous sommes installés, continue de peser, mais comme je l'évoquais, nous attendons une baisse de ces charges financières au deuxième semestre, d'abord en raison de la réduction de l'endettement par l'amélioration des opérations, ensuite de la réduction de la surliquidité du groupe, j'y reviendrai, et enfin de la baisse très probable des taux d'intérêt. Le compte de résultat, vous le voyez, fait également apparaître un gain de 2,8 millions au titre de l'impôt, donc un gain qui résulte essentiellement des déficits reportables que le groupe a activés pour refléter l'amélioration des perspectives d'activité et de profit de nos entités françaises, qui sont pour l'essentiel exportatrices, et aussi de nos entités britanniques et allemandes. Alors, je le rappelle à chaque fois, mais c'est important, il s'agit naturellement de l'impôt comptable. En ce qui concerne l'impôt cash, le groupe a payé et paiera bien évidemment des impôts en 2024 dans chacune des juridictions où il est implanté. Donc, pour conclure le compte de résultat, le résultat net par du groupe s'élève à 3,5 millions en négatif, en raison notamment et principalement des charges exceptionnelles que je viens d'évoquer. Et je précise qu'à environnement constant, nous attendons un résultat net positif au 31 décembre 2024 qui nous permettra, comme l'a évoqué Michael, de reprendre le versement d'un dividende en 2025 au titre de 2024. En page 27, notre tableau de flux de trésorerie qui reflète donc une forte génération de cash qui s'explique donc par un EBITDA en nette amélioration. Un poste autre au-dessus de la MBA correspond aux frais financiers non cash et à l'hyperinflation en Argentine. Une diminution donc très importante du BFR de près de 34 millions. C'est assez intéressant de noter que nous avons une amélioration de notre activité et pour autant, le niveau de stock de Novacell en particulier a été beaucoup réduit. Donc c'est un travail important réalisé par nos équipes dans le monde entier. Hein. Chez Novacell, comme chez Chargeur PCC, je vous le rappelle, nous sommes extrêmement divers sur le plan international. Nous avons des filiales dans des dizaines de pays. La qualité de service, qui passe notamment par des délais de livraison très courts, proximité de nos clients, nous impose d'avoir des stocks dans un certain nombre de nos installations. Et donc, le contrôle de ce stock, l'optimisation de ce stock, est une démarche permanente d'amélioration. On a beaucoup travaillé au cours des derniers semestres. et au cours des derniers mois. On va continuer de le faire au S2 et dans les années suivantes. Nous avons donc, grâce à ce travail, un ratio BFR sur chiffre d'affaires qui revient à un niveau assez bas et dans les plus bas des comparables industriels que vous pouvez constater sur le marché. Nous sommes à environ 7% de ratio BFR sur chiffre d'affaires au 30 juin 2024, c'est-à-dire à environ un peu un mois de chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait raisonnable dans des activités comme les nôtres. On était à 13% au 31 décembre 2023, ce qui était évidemment trop élevé. On arrive à un bon niveau, mais encore une fois, on estime qu'on a des marges d'amélioration encore possibles et nous y travaillons, nos équipes y travaillent ardemment. Grâce en particulier grâce à cet EBITDA, grâce à ce travail réalisé sur le BFR, nous avons donc un flux de trésorerie opérationnel à près de 40 millions, 39,6 millions très exactement, contre un peu moins d'un million en 2023. Et évidemment, à la fin des fins, le flux de trésorerie opérationnel, c'est le meilleur indicateur de la forte amélioration de la performance du groupe. En matière de CAPEX, en 2023, nous avions réalisé un effort d'investissement très significatif pour améliorer la productivité de nos installations, pour améliorer leur performance énergétique et aussi pour accélérer la transformation digitale industrielle. Et c'est important de souligner qu'une fois encore, nous avons démontré la vision long terme, qui est l'une des caractéristiques d'un groupe familial comme Chargeur, une vision long terme, même dans des périodes difficiles comme a pu l'être 2023. Donc cette année, en 2024, on revient à un niveau de CAPEX beaucoup plus classique, à 6,6 millions. On dit toujours qu'on est entre 12 et 15 millions par an, et bien on est à 6,6 millions pour le semestre. Donc, au total, grâce au cash important que nous avons pu générer pendant le semestre, nous avons diminué notre dette nette de plus de 32 millions pour arriver à 218,7 millions. Je vous propose de passer maintenant dans la slide 28 sur le bilan et la structure financière. Donc, vous voyez que notre bilan traduit une légère hausse des immobilisations incorporelles, qui est liée pour l'essentiel à des effets de change. Une augmentation des autres passifs et actifs nets, qui, elle, correspond essentiellement à l'activation d'impôts, dont je viens de parler. La baisse de notre BFR, donc bilancielle, quasiment divisé par deux. Et puis, et c'est important de le souligner, une hausse des capitaux propres, qui, j'allais dire, à périmètre constant, s'explique par les différences de conversion qui ont été en partie compensées par le résultat net négatif du premier semestre. Mais, et c'est un point important, on a évoqué le fait, pour mieux refléter la valeur patrimoniale de nos actifs, que nous avons décidé de réévaluer, avec l'aide d'un expert indépendant, nos actifs immobiliers, et cette réévaluation représente, ou nous a permis, une augmentation de près de 40 millions, 39,7 millions très exactement, par rapport aux capitaux propres publiés au 31 décembre 2023. Donc, tout ça, évidemment, renforce la structure bilancielle du groupe Chargeur. Donc, notre dette nette, je l'évoquais il y a quelques secondes, à 210 millions, 218,7 millions diminue fortement, ce qui fait, et aussi grâce à la hausse de notre EBITDA, que le ratio de levier du groupe s'améliore lui aussi très nettement, puisqu'il passe de 5 fois l'EBITDA à la fin 2023 à 4,3 fois à la fin du mois de juin 2024. Cette trajectoire de baisse devrait se poursuivre au cours du second semestre, avec pour objectif de revenir en dessous de 3 fois et demi au 31 décembre 2024. Je vous rappelle que notre documentation bancaire ne prévoit pas de covenant de levier. Pour autant, évidemment, c'est un objectif permanent pour nous d'abaisser notre ratio de levier, je répète, avec pour objectif d'être en dessous de 3 fois et demi au 31 décembre et de poursuivre naturellement en 25 et après une baisse de ratio. Le seul covenant que nous ayons dans notre documentation bancaire concerne le gearing, avec un seuil à 1,2 fois l'EBITDA. Nous étions à 0,7, donc très loin du seuil, au 30 juin, contre 0,9 au 31 décembre 2023. Donc là encore, une amélioration. Nous ne prévoyons pas de croissance externe significative dans un avenir proche. Nous avons donc décidé de réduire la surliquidité, ce qui était une surliquidité du groupe chargeur au cours des dernières années. Donc ça va contribuer à diminuer notre charge financière, parallèlement, naturellement, à la réduction de l'endettement lié à l'amélioration de nos performances et à la baisse très probable des taux d'intérêt dans les mois qui viennent. Donc au total, le groupe a une structure financière qui est solide et qui reste très flexible, avec une maturité moyenne des financements de 2,3 années et à fin juin de 256 millions d'euros de ressources financières disponibles. Voilà pour la revue financière. Je repasse maintenant la parole à Michael Fribourg pour la conclusion de notre présentation.
Merci Olivier. Donc évidemment, on a une dynamique qui est solidement engagée pour ce semestre et pour cette année. Nous allons poursuivre l'ensemble des initiatives qui ont été prises en début d'année dans le sens de la génération de cash, mais aussi du développement et de l'accompagnement de nos métiers qui sont, vous le voyez, dans des secteurs sont assez porteurs, qui se portent un peu mieux que le reste de l'économie, ou déjà un peu mieux que le reste de l'économie, selon leur phasing. Et les objectifs clés pour cette fin d'année, c'est premièrement le cash, deuxièmement la génération de cash, et troisièmement la récupération et la redistribution du cash. Voilà. Merci à tous, et puis maintenant on passe à vos questions.
Merci beaucoup, Monsieur Fribourg. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie chiffre 1. Donc, étoile 1 pour poser des questions. Notre première question aujourd'hui viendra de Monsieur Pierre Gauthier, qui nous appelle de Alpha Value. C'est à vous.
Bonjour, Michael, bravo pour ce très beau retournement en premier semestre.
Bonjour Pierre-Yves.
J'aurais une question sur l'évolution des prix. On a l'écart entre la croissance organique et l'évolution du chiffre d'affaires sur PCC est très intéressant, puisque on sent que les prix pourraient ne pas avoir tenu sur ce secteur. J'ai compris qu'il y avait un facteur de change dans les commentaires qui ont été faits. Mais est-ce qu'on pourrait être peut-être un peu plus précis, puisque c'est croître de 10% en organique, c'est assez remarquable dans cette industrie. Donc, ce serait intéressant effectivement d'avoir votre opinion sur l'évolution des prix dans ces métiers, et peut-être un peu aussi en tendance sur Novacel, voir comment les prix ont pu évoluer ou sont susceptibles d'évoluer sur la deuxième partie de l'année. Merci.
Oui, alors c'est deux. Alors, je commence par votre première question sur les prix. Nous, on a. Alors, c'est un secteur où vous avez une poussée depuis un certain nombre d'années des produits un peu plus techniques par rapport aux produits un peu moins techniques. Donc, vous avez mécaniquement un mix produit qui, année après année, s'améliore. Là où il y a de la pression des prix sur les produits les plus élémentaires et les plus basiques. Je dois dire que nous-mêmes, ce qu'on appelle un peu les produits de performance pour la mode, hein, donc toute une série de textiles qui viennent notamment dans ce qu'on appelle les gammes d'habillement athleisure, qui parce qu'en gros, c'est des vêtements qui sont un peu plus sport ou un peu plus mixtes, sont soumis à des tensions ou à des pressions un peu plus fortes, bref, doivent être plus résistants, donc ils sont plus techniques pour que ce soit plus résistant. C'est ça qui nous pousse beaucoup. Les effets de change, effectivement, ont été plutôt défavorables. On a eu des effets volumes positifs aux États-Unis et en Asie et des effets volumes négatifs en Europe, mais vu que ce que nous vendons aux marques américaines, que ce soit en Asie ou physiquement aux États-Unis, mais surtout en Asie, correspond au mix que j'ai indiqué, ben, année après année, les choses s'améliorent. Dans un contexte où nous ne subissons plus de cycle d'inflation de nos intrants, donc ça c'est une bonne chose, et nous-mêmes on n'a pas fait d'augmentation de prix, mais par contre on n'a pas eu du tout de pression à la baisse des prix sur. les gammes les plus dynamiques. Ensuite, sur ce qui est un peu moins dynamique, nous-mêmes, parfois, on fait un peu de négoce et s'il y a des baisses des prix, nous-mêmes, on achète moins cher le produit. Donc, voilà, un peu, j'espère que ça répond, enfin, que ça répond autant que possible à votre question, mais le secteur de ce secteur du vêtement connaît des logiques d'hyper-premiumisation sur ce qui est formel. Le marché est plus étroit, mais hyper-premium. C'est un peu le sens de, par exemple, de produits qui sont vendus par Cylander. De l'autre côté, il y a une déferlante gigantesque de l'athleisure, mais précisément, ça fait quand même de nombreuses années maintenant que ça se cumule, et c'est le forte de PCC au niveau mondial. C'est l'avance qui n'a eu de cesse de se conforter sur PCC, et Gianluca Tanzi a démultiplié ça à son tour depuis maintenant près de 3 ans, et c'est un immense succès. Donc, pour faire simple, le fait que les gens portent moins de vêtements formels, moins de costumes, moins de et un peu plus de produits qui, sans être déformés, informels, façon débridée, sont moins dans le conventionnel, on va dire. Là, ça nous porte beaucoup. Sur Novacell, vous aviez une... Oui, alors sur les prix. Donc, alors c'est très intéressant sur Novacell parce que vous avez en tête qu'on translate le prix du polyéthylène et que donc on a de la croissance organique de notre chiffre d'affaires malgré la baisse du prix du polyéthylène. Donc, on a un effet volume très significatif. Donc, ça, c'est une très bonne chose. On a eu au printemps des niveaux de carnet de commandes qui étaient tout à fait comparables à ce que au bon niveau de carnet de commandes qui nous permettent de bien générer de la rentabilité. Vous avez en tête, dans ce métier, il faut un volume global qui est assez bon à l'année, un peu de carnet de commandes, un bon carnet de commandes pour avoir la bonne visibilité et un bon mix. Les trois ingrédients reviennent petit à petit et on l'avait expliqué. Et ça, c'est une très bonne chose. Et en fait, dès que vous avez un peu de redémarrage des commandes, ça vous permet d'avoir de la visibilité, donc une meilleure planification industrielle, etc., etc. Et Philippe Denoy travaille énormément sur ces aspects de flexibilité d'un côté et de réactivité industrielle qui permet de faire face aux logiques un peu d'à-coup des carnets de commandes. Il y a un peu moins de visibilité. En fait, si le carnet... S'il y a trop de profondeur du carnet de commandes, c'est pas très bon parce que les clients planifient mal et du coup font du surstockage. S'il n'y en a pas assez, c'est pas bon non plus parce qu'ils n'ont pas le bon niveau de stock, il faut le bon équilibre. Et là, on est dans une phase où ça redevient correct, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on voit que dès que ça redevient un peu correct, très vite, la rentabilité est là, c'est une bonne chose.
Et j'ajouterais que le pricing power qu'on a dans ce métier nous permet... De passer des hausses de prix. Donc, on a de façon très tactique et bien organisée déployé mondialement des hausses de prix qui, évidemment, ont accru cet effet.
Oui, oui, c'est, Olivier a tout à fait raison de souligner ce point. On l'a observé dans beaucoup de filières industrielles. Il y a eu des flambées de prix sur certaines verticales de coûts, le transport maritime, très content des surprofits de CGA, CGM, mais bon, quand même, ça a coûté très cher à beaucoup d'industriels. On a été très content des surprofits de Total et d'EDF à un moment donné, mais ça a coûté aussi très cher aux industriels. Eux, ils n'ont pas fait exprès de les faire, j'ai bien compris, mais nous, on a quand même dû faire exprès de les payer. Bon, ces pics de charges, ça concernait beaucoup de secteurs de l'économie, ont déformé un peu les structures de coûts et structures de prix. Et donc, ça, nous, on a mis en place des surcharges thématique par thématique, évidemment. Mais quand après le prix rebaissait, la surcharge baissait. Donc, on a dit, bon, on regarde maintenant, on fait un peu l'inventaire, on regarde où on en est. Et on a pris la décision de faire un peu des hausses de prix. Alors, ce n'est pas des gros montants, mais si vous augmentez de 2-3% vos prix un peu en logique de rattrapage général, du coup, vous le retrouvez dans votre marge brute assez vite. et dans votre profit et dans votre cash. Donc voilà, on a eu cette discipline-là et on a exprimé à travers ça notre pricing power et aussi notre devoir de bien s'assurer que, parce que au début, tout le monde va vous expliquer que vous allez compenser par de la productivité, mais ça, c'est pas vrai. Vous le compensez un peu, mais à un moment donné, ça atteint ses limites et il faut que plein d'ingrédients soient réunis pour le faire. Donc, nous, on est parti du principe qu'on n'était pas très intelligent, donc on a juste augmenté nos prix.
Merci bien. Donc, en fait, en itérant, je dirais, ce facteur hausse de prix ciblé pourrait continuer de tirer sur le deuxième semestre.
Ah bah ouais, c'est le but, ouais.
D'accord.
Oui, parce qu'en gros, pour compléter, on ne veut pas, je ne veux pas que dans ce métier, il y ait une course frénétique au volume. Je ne voulais pas qu'il y ait une course frénétique au volume pour aller dépasser les plafonds qu'on atteignait en productivité et aller compenser les surcoûts qu'on avait absorbés au cours des dernières années. Donc, il faut que, pour dire les choses assez simplement, il faut qu'à 800 millions de mètres carrés par an, ce métier génère un bon niveau de rentabilité. Donc pour ça, comme j'ai dit, on n'a pas fait le truc le plus intelligent de la Terre, on a juste dit à quel niveau il faut le prix. Donc voilà. Et comme ça, on est un peu plus serein.
Merci.
Merci beaucoup pour vos questions, monsieur Gauthier.
Oui, désolé. Vous essayez d'être très intelligent face à des logiques complètement erratiques et irrationnelles d'augmentation de prix sectoriels qui sont accumulées dans vos intrants. Très honnêtement, vous pourrez appeler une intelligence qui n'existe pas, c'est impossible. Faut juste dire, il y a eu des décalages et des recalages, et puis on regarde où on en est.
Merci beaucoup, monsieur.
On a eu moins de problèmes sur CFTPCC, on l'a eu un peu, hein. On a commencé à le traiter plutôt l'année dernière, on pouvait le traiter plutôt l'année dernière, petit à petit, ça s'est pas trop vu, mais on l'a fait l'année dernière. Mais par contre, on l'a fait sur Novacell et Philippe Denoy en dialoguant avec ses équipes commerciales par un UCAS extrêmement efficace, l'a mis en œuvre et c'était très bien. Et je l'encourage à le refaire le moment venu. Pardon.
Merci beaucoup, monsieur. La prochaine question viendra de Saina Hussein, qui nous appelle de Alpha Value. C'est à vous.
Tout d'abord, bravo pour ces beaux chiffres, mais vous avez déjà répondu en grande partie à ma question qui était aussi sur la logique des prix. Je voulais juste savoir si la logique, quand vous attendez à une marge opérationnelle plus normative pour Novacell d'ici 2025, si c'était plus un effet de reprise des prix du PE ou si c'était plus un effet volume et je voulais savoir aussi
effet volume, je réponds tout de suite, c'est l'effet volume.
Oui, vous avez déjà
voilà répondu. Et on a déjà observé sur certains mois où le volume était pile dans ce qu'on voulait qu'on atteignait le bon niveau de rentabilité entre 9 et 10%, c'est-à-dire de marge opérationnelle nette sur le chiffre d'affaires. Et donc, parce que évidemment, le semestre, en fait, dans ces activités industrielles, votre année, elle se fait beaucoup sur 8 mois. C'est-à-dire, elle se fait mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis, entre-temps, c'est les lancements d'année, l'été, etc. Donc, on l'a vu, les bons mois où il y avait les ingrédients que j'indiquais, visibilité, carnet de commandes, mix, en fait, on les a. Donc, c'est pour ça qu'on est assez confiant là-dessus. Hein. On les aurait pas, ce serait putatif, mais vu qu'on les a eus, et qu'après, la moyenne que vous avez du S1, elle reflète ça.
Et est-ce que vous attendez quand même à une reprise des frais du PE ou...
Oui, à un moment donné, ça devrait reprendre, mais pour nous, c'est complètement neutre, puisque nous, on translate le prix. Donc, il y a une clause d'ajustement. Ça pourrait reprendre, C'est une problématique assez complexe et là aussi, vu que nous, on est parti du principe qu'on n'était pas très intelligent, on translate le problème au client et puis si ça monte, c'est pour lui. Si ça baisse, c'est un peu pour nous quand même. Et si ça, c'est pour lui après. Mais franchement, c'est assez complexe parce que vous avez des sujets de capacité en Europe, de cartel, enfin, c'est une problématique assez complexe que nous, on a évacué par la translation du prix au client. Ça monte, son prix monte, ça baisse, son prix baisse, et nous, ça ne change pas notre marge.
D'accord, merci. Et sur les, une deuxième question qui porte sur les charges financières, sur les 15,7 millions que vous avez enregistrés au S1, à combien vous estimez la partie exceptionnelle? Et est-ce qu'on peut s'attendre avec la baisse attendue au S2 de vos charges financières à un niveau sur l'ensemble de l'année égal ou légèrement supérieur à celui de 2023?
Alors, comme vous avez slide 11, cash c'est 11 millions. En fait, il faut regarder les charges financières cash parce que nous, vu qu'on est très internationaux, vous avez des choses qui passent dans le résultat financier qui sont non cash en réalité. Je sais pas, lié à l'hyperinflation en Argentine, par exemple, des sujets comme ça assez, bon, assez sophistiqués, qui sont des questions de normes IFRS. Je serais bien incompétent pour vous les expliquer, mais du coup, faut regarder les charges financières cash de 11 millions pour faire simple. En temps normal, nos charges financières, elles tournent autour de 14-15 millions sur chargeur. La hausse des taux d'intérêt, sachant que nous, on a une part fixe, une part variable, plus des effets de step-up, font que c'est une année où on est autour de 18 à 21 millions. Dans ça, il y a aussi un effet overlap, premièrement, puisque on a déjà les financements, on avait déjà en caisse, en fait, les ressources de refinancement d'échéances que nous avions. Et deuxièmement, un effet sur liquidité, Olivier Bucquin en a parlé, c'est-à-dire que dans un contexte où on avait une stratégie de croissance externe qu'on voulait préfinancer, alors j'explique pourquoi on voulait préfinancer aussi, parce qu'il y avait des contraintes d'organisation capitalistique, etc., qu'il y avait l'histoire du seuil, que voilà, on n'avait pas franchi le seuil. Bref, en tout cas, tout ça fait que on avait cet agenda-là. Aujourd'hui, notre agenda a évolué, donc on a moins besoin de ces surliquidités. Et ces surliquidités, ça fait qu'on a pas mal de financement, mais qu'on ne tire pas. Simplement, même si vous ne les tirez pas, vous avez un compte d'utilisation qui représente un tiers à peu près, ou un peu plus, ou 40% du nominal, enfin de la marge, et du coup ça vous fait des frais financiers en plus. Et il se trouve que c'est des taux variables et c'est précisément ceux qui ont augmenté. Donc tout ça mis bout à bout fait que ça représente quelques millions atypiques, mais comme je le dis, pour faire simple, une année, voilà, l'année prochaine, on devrait plutôt être dans les purs de ce que j'indiquais. Autour de 14-15 millions, ce qui est un peu notre tendance historique, tenant compte de cet aspect des surliquidités et aussi baisse de taux.
Merci beaucoup, madame. Il semble que nous n'avons plus de questions, monsieur Fribourg.
On peut prendre une dernière question si vous voulez avant de vous
libérer. Oui, très bien, monsieur. Et on a une autre question qui vient d'entrer. C'est M. Lindre de Francis Prêtre de CIC Market Solutions. C'est à vous.
Oui, bonjour. Personnellement, j'aurais une question sur Museum Studio et plus particulièrement le Grand Palais Immersif. Peut-on avoir un élément de réponse sur, je dirais, le coût engagé pour cette participation majoritaire? Et également, peut-on également avoir un élément de réponse sur le potentiel que ce nouveau segment de marché où vous vous positionnez pourrait générer en termes un petit peu de facturation dans les années à venir? Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, 10 millions, 50 millions ou 100 millions, enfin bon, pour avoir un ordre de grandeur et commencer un petit peu d'ores et déjà à bâtir un business plan sur le sujet?
Alors,
merci beaucoup.
Alors, c'est encore un peu tôt. La réponse à la première question, c'est quelques millions, pas beaucoup, 2 millions du tout. En fait, on a procédé par augmentation de capital. Deuxièmement, c'est vraiment pas beaucoup. C'est très peu. c'est plus que 1 et moins que 5.
D'accord.
Sachant qu'on en a 52% de ce qu'on a mis, donc c'est pas beaucoup. Le coût net aux bornes du groupe est pas énorme. Enfin, je ne sais pas si je peux dire plus d'informations. Je pense qu'on est soumis à des règles de confidentialité. Sur le chiffre d'affaires à en attendre, dans ce segment d'activité, si on se projette à quelques années, à 2-3 ans, ça doit être quelque chose qui est compris entre 10 et 15 millions, mais ça va être une bonne verticale de dynamique, et surtout c'est de l'IP, donc ça veut dire qu'on en est propriétaire, on va le diffuser, donc ça devrait être des rentabilités assez intéressantes avec l'internationalisation. Donc c'est encore un peu tôt pour répondre à cette question, mais c'est pas 100 millions, c'est pas 50 millions, c'est plutôt de l'ordre de ce que j'indique. Bah, pour vous donner une idée, sur 3 mois, Olivier, si je ne m'abuse, c'est 2 millions le chiffre d'affaires de l'exposition Artisan Renoir. Donc, vu que vous voyez, c'était que sur 3 mois, donc ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter pour Museum Studio. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable.
D'accord.
Alors, on est producteur dans ce cas-là, donc il faut avoir en tête, c'est nous qui investissons. Hein. C'est pas de l'ingénierie pour compte de tiers. C'est nous qui investissons. Donc, vous voyez, 3 mois, Cézanne Renoir, 2 millions de chiffre d'affaires, peut-être un peu plus d'ailleurs. Hein. 2 millions. Voilà. Bon, donc, vous voyez, quand je vous dis 10 en rythme annuel, alors là, on le prend en main, hein, donc comme toujours il faut que ça soit bien à notre profil, mais voilà, c'est un peu ça l'équation.
Et c'est une entreprise qui a été créée il y a 2 ans, hein, donc c'est encore très récent, 3 ans pardon.
D'accord. Sur Museum Studio en général, ce sera ma dernière question, la performance du premier semestre, rendez-vous donc de la rentabilité opérationnelle avec une marge de 9%, et j'étais un peu surpris de la dimension de cette marge, dans le sens où j'imaginais que dans un premier temps, l'idée était de conquérir des parts de marché avec les moyens du bord qui devaient également se renforcer et que les marges progressivement viendraient à terme. Est-ce à dire que de 9%, on va avoir un bond en avant des marges dans le futur, ou alors que vous avez d'ores et déjà pu un peu optimiser assez rapidement, je dirais, l'ensemble de cette nouvelle entité?
Non, parce qu'on continue d'investir, donc la marge elle est plutôt bonne. On continue d'investir, donc ça se retrouve dans les charges, si vous voulez, au plan humain, au plan du développement. Donc il n'y a pas de, enfin j'ai envie de dire que ce que vous décrivez, c'est un peu ce qu'on a fait au cours des dernières années. On avait le chiffre d'affaires et pas des marges très 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 glamour toujours, mais on continue de le faire, mais là, on a plus de chiffre d'affaires. Donc, on accélère nos investissements, mais ça ne pénalise pas nos marges parce qu'on a une masse qui est plus significative. Est-ce que de là, en fait, en gros, si votre question, c'est est-ce qu'il va y avoir un bond des marges, vu qu'on continue d'investir et que le niveau de marge nous satisfait, il n'y a pas de raison spécifique qu'il y ait un immense bond des marges. Vous voyez, je vous disais, a priori, sur le S2, on va avoir plus de chiffre d'affaires, mais on attend en valeur absolue une rentabilité qui est autour à peu près pareil que ce qu'on a eu au S1. Donc, ça fait c'est ce que bien, hein, ça fait 12. Et nous, ça nous convient et en même temps, on continue d'investir. Donc, ce bon équilibre de pilotage qu'on a avec l'équipe autour de Delphine de CanCode, elle sait ce qu'elle peut réinvestir pour autant qu'elle nous sert en valeur absolue ce que nous souhaitons.
Merci.
On donne plus en valeur absolue qu'en taux de marge. Mais,
okay.
mais bon, je sais pas si ça répond un peu à votre question, mais voilà.
Merci, c'est très clair, pas de souci, merci.
Alors, je vais dire autrement, elle dépense l'argent qu'elle a, qu'elle génère, pas on n'est plus dans la phase où il faut qu'on prenne sur nos ressources générales. Là, c'est en autofinancement, le développement s'autofinance. Donc, si c'est, Si ses projets sont à l'heure, on budget, on profit, ben, ça lui libère des ressources. Elle peut donc aller faire des développements, par exemple, pour dire, ben, là, on va produire plus d'expositions à notre risque. Et puis, ben, du coup, on sait qu'on est, on est couvert, que ça ne porte pas préjudice à un certain niveau de marge qu'on attend en valeur absolue. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on est bon?
On n'a plus de questions, Monsieur Fribourg.
Eh bien, merci à toutes et à tous. Excellente rentrée. Pour contrarier Pierre de Courbertin, l'important n'est pas de participer, mais c'est de gagner. Merci à tous. Au revoir.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ceci conclut la conférence aujourd'hui. Nous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.